100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est la fin de l'été et les Européens s'inquiètent. Dans plusieurs pays du continent, le nombre de cas positifs à la Covid-19 s'envole. Localement, les autorités mettent un tour de vis sanitaire pour éviter un reconfinement de la population, comme au printemps dernier. Au-delà du confinement, les déplacements restent extrêmement difficiles avec la mise en place de quarantaines, de tests obligatoires. Et le secteur touristique est donc particulièrement touché. Développé progressivement sous sa forme actuelle à partir des années 60 et 70, le tourisme est aujourd'hui un des piliers de l'économie grecque. L'an dernier, le pays a reçu près de 34 millions de visiteurs, soit trois fois le nombre d'habitants du pays. Et près d'un emploi sur cinq est aujourd'hui lié directement ou indirectement à ce secteur touristique. Joël Brunner s'est rendu sur les îles de Céphalonie, de Castellorizzo et de Paros qui tirent une large part de leur revenu annuel des estivants.
Stéphanos Vallas est serveur l'été dans un restaurant de bord de plage à Katelios, dans le sud de Céphalonie. Derrière son masque de protection en plastique et fort de ses études consacrées à l'agriculture biologique, il fait l'article de cette île de la mer Ionienne qu'il a vu naître il y a près de 40 ans.
It's a very beautiful island, unique.
C'est une île magnifique qui possède notamment une grande biodiversité, 1400 différentes espèces d'arbres et de plantes. Une île unique avec une vaste forêt et une grande montagne d'environ 1700 mètres de haut. Les habitants de Céphalonie vivent principalement du tourisme. Notre mer superbe, la forêt que je viens d'évoquer et de nombreux circuits à travers des végétations différentes font partie des charmes que les touristes viennent chercher ici, car notre île offre beaucoup de paysages différents.
Sa famille produit l'hiver un peu d'huile d'olive, mais les bénéfices sont marginaux. Au restaurant, cet été, il a travaillé seul, alors qu'il était épaulé par trois serveurs supplémentaires un an plus tôt. Selon son estimation, 90% des visiteurs de l'île sont britanniques, des touristes absents cette saison en raison du virus.
Now we should be full of people.
À l'heure actuelle, il devrait y avoir du monde partout. Mais malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a personne en train de se promener sur la plage ou de déjeuner à la terrasse des restaurants. C'est une crise sanitaire à laquelle on ne s'attendait pas. Nous essayons de rester positifs en gardant l'espoir que cela va passer rapidement. Mais pour l'heure, beaucoup de gens ont perdu leur emploi étant donné que, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Vous devez avoir en tête que le restaurant n'est ouvert que 5 mois par an. C'est notre seule source de revenus et nous essayons d'en vivre le reste de l'année. Donc là, par exemple, nous fonctionnons avec le minimum de personnes possible. Pour être honnête avec vous, nous travaillons maintenant grâce aux bénéfices que nous avons engrangés l'an dernier. Cette année, nous ne rentrons pas dans nos frais au niveau du restaurant.
Et au nord de cette île de Céphalonie, la situation n'est pas plus brillante. Akis Koufas et sa femme tiennent une chambre d'hôte dans le village portuaire d'Agia Efimia.
Par rapport à l'an dernier, nous avons 70 à 80% de clients en moins. Cela nous inquiète beaucoup pour l'avenir, tant au niveau de notre hôtel qu'au niveau personnel. Mais nous devons donner la priorité à notre santé, le reste passe après.
À Castellorizzo, à la frontière orientale de la Grèce, Diamandis Mavros Thalassitis possède un restaurant et un petit hôtel. Pour lui, comme pour les habitants de cette île, c'est un peu la double peine. La situation géopolitique avec la Turquie, qui convoite les fonds marins alentour, doublée de la crise sanitaire, ont engendré une saison particulièrement morose.
Les conséquences du coronavirus étaient déjà assez désastreuses et les tensions politiques n'ont pas aidé non plus. Et donc l'été a été mauvais pour tout le monde sur l'île. D'autant que cela ne va pas seulement être un mauvais été, mais cela va aussi être un mauvais hiver. Car ici, nous vivons l'année entière avec l'argent de notre travail, des 3 ou 4 mois d'été. Donc cela ne va pas être facile. Heureusement, sur une petite île comme celle-ci, il y a une assistance mutuelle. Les gens s'entraident beaucoup. Mais malgré tout, ce n'est une situation confortable pour personne.
À Paros, dans les Cyclades, la saison a bien sûr aussi été ralentie, mais les dégâts ont été plus limités, en raison notamment d'une dépendance moindre aux touristes britanniques et américains, les grands absents de la saison en Grèce. Panagiotis Vassilopoulos est patron d'un restaurant familial qui donne sur le port de la petite ville touristique de Naoussa.
L'été dernier, à la même période, tous les hôtels ici à Paro s'étaient pleins à craquer. En ce qui concerne les restaurants, il y avait sans cesse des clients attablés de 9h du soir jusqu'à 1h du matin. Cet été, nous avons toujours des clients, mais c'est bien plus calme que les années précédentes. Personnellement, je discute avec de nombreuses personnes qui ont des restaurants, des hôtels, ou bien qui louent des scooters sur d'autres îles, et ils me disent que ces îles sont vides. Mais à Paros, c'est à moitié plein.
À la mi-juillet, le Premier ministre grec l'avait annoncé depuis l'île de Santorin. L'objectif de cette saison touristique, condamnée d'avance à un fort ralentissement, serait avant tout de limiter les dégâts. En attendant un rebond espéré ici, à partir de 2021, voire 2022.
En Albanie aussi, le secteur touristique est particulièrement touché, mais la bonne nouvelle est venue des visiteurs serbes. Pour profiter quand même des rives de la Méditerranée, ils se sont rendus nombreux chez leurs voisins albanais. L'occasion pour eux de mettre à mal beaucoup de stéréotypes, Louis Seyer.
Tous les gens, la nature, la mer, la cuisine, la gentillesse, la bienveillance, tout à la fois.
C'est bientôt la fin des vacances, mais Tamara et son mari ont encore quelques jours pour profiter des plages et de l'eau turquoise de la Riviera albanaise. Cette docteure d'une cinquantaine d'années est ravie d'avoir fait la route depuis Belgrade.
Sur Facebook, je partage des photos de mes vacances avec des groupes d'amis et j'ai reçu plein de questions. Tous me demandent, mais est-ce que c'est possible que ce soit en Albanie? Et moi je leur réponds, mais oui, et que le meilleur les attend ici.
L'Albanie comme destination de vacances, impensable il y a encore quelques temps en Serbie. Mais avec la Covid-19 et la fermeture des frontières, les citoyens serbes ont dû faire une croix sur leurs vacances en Grèce, au Monténégro ou en Croatie comme les étés passés. L'Albanie, elle, n'impose aucun test ni quarantaine obligatoire. Jelko et sa copine font partie des milliers de touristes serbes qui ont franchi le pas. Et ils ont été agréablement surpris par l'accueil des Albanais.
Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Vous savez, à cause des relations entre la Serbie et l'Albanie. Mais les gens sont super, vraiment hospitaliers. Je réparais un truc dans ma voiture l'autre jour et un vieil Albanais est venu et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Il a ramené des outils. Ils sont vraiment sympas.
Les touristes serbes revenus des plages albanaises seront sans doute les meilleurs ambassadeurs de la destination Albanie dans leur pays. Mais pas sûr qu'elle fasse de l'ombre aux voisins grecs.
L'Albanie, c'est vraiment sympa, mais le principal problème avec l'Albanie, c'est que ce n'est pas la Grèce. On s'attendait à ce que ce soit un peu plus comme la Grèce, mais ça va, c'est cool.
Avec l'arrivée des vacanciers serbes, macédoniens ou roumains, l'Albanie évite pour l'instant l'effondrement de son secteur touristique, très durement frappé par les conséquences de la pandémie.
L'Italie se relève doucement de la crise sanitaire qui l'a durement frappée cet hiver. Pour soutenir les hôpitaux du pays qui seraient de nouveau très sollicités en cas de deuxième vague, le gouvernement prévoit un plan d'aide de près de 34 milliards d'euros qui doit encore bénéficier du soutien financier de l'Union européenne. Mais les hôpitaux, ce sont aussi et surtout ceux qui travaillent, médecins, infirmiers, personnel hospitalier. Du nord au sud de l'Italie, les initiatives pour prendre soin d'eux et de leur bien-être se sont multipliées. Cécile Debarge s'est rendue à Mazara del Vallo, en Sicile, où les gérants d'un Airbnb se sont mis au service des soignants.
Depuis la grande terrasse du Terrace Sunset Mazara, on aperçoit la mer derrière la longue rangée de palmiers qui borde le front de mer de Mazara del Vallo, un port de pêche du sud-ouest de la Sicile. Assise à l'ombre d'une pergola blanche, Orletta, la gérante, revient sur l'idée qu'elle et son compagnon ont eue au plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19. Offrir deux nuits à des soignants en première ligne pour passer un week-end dans l'un des quatre appartements fraîchement rénovés de sa structure.
Nous avons impliqué des partenaires locaux. Le bar a offert le petit déjeuner pour les clients. La pizzeria a offert un chèque cadeau pour le repas du midi. Un caviste a offert une bouteille de vin. La pharmacie un petit paquet de crème. Et on a composé 8 paquets vacances pour les médecins et infirmiers.
Pourtant, son petit B&B à gestion familiale n'a pas été épargné. Ouvert en octobre 2019, il devait réaliser cet été sa première grosse saison touristique. Toutes ses réservations du printemps ont également été annulées, hors l'État.
Cette Covid-19 a vraiment eu un gros impact économique sur nous, mais ce n'est pas pour deux nuits offertes à des médecins ou des infirmiers qui ont tant donné qu'on sera en faillite. On espère que ce geste d'altruisme pourra montrer la voie du changement aux autres.
Pour promouvoir ce beau geste, elle s'en remet aux réseaux sociaux.
On essaie de rendre aux autres ce qui nous est donné. On a impliqué d'autres partenaires. On a créé le hashtag chouchoutons nos SSS. C'est l'abréviation de nos personnels de santé. Et ce qu'on veut, c'est rendre ce qu'ils ont donné.
Le succès est immédiat. Elle reçoit près de 1000 candidatures en quelques jours. Au total, la moitié des heureux élus sont des personnels de santé locaux. L'autre moitié vient de toute l'Italie. Un couple d'infirmiers siciliens a déjà profité de l'offre, ainsi qu'une maman infirmière venue avec sa fille. Les autres ont réservé cet automne et dans les mois à venir.
Cap sur le Portugal et sa Nationale 2 pour un road trip iconique, si l'on en croit les guides de voyage, Marilyn Darcy.
En moto, à bicyclette, en voiture ou à pied, la Nationale 2 portugaise est devenue un must. Longue de 738 km, elle partage le pays en deux. La N2 passe même par le point central du pays, celui qui permet de fixer les coordonnées et distances du Portugal. C'est à Vila de Rei, près de Sertão. Ana Maria est professeure, elle fait la N2 avec une amie. Quelques étapes en 7 jours depuis le sud du pays. Elle découvre avec ravissement la région de Sertão.
Ce n'est pas seulement la route, même si c'est une nationale calme, sans trop de trafic, sur laquelle on peut rouler tranquillement pour admirer le paysage. Mais c'est aussi parce qu'elle traverse des endroits merveilleux, d'où on peut faire des échappées. Les chemins de randonnée sont bien signalés, il y a toutes les plages le long du fleuve. Et c'est un endroit vaste et serein. C'est un territoire de découverte. J'invite les Portugais et les étrangers à venir. C'est une succession de petits paradis.
Certains, à défaut d'avoir un patrimoine bâti remarquable, est un bon point de départ pour connaître la région. Antonio Castellan dirige une entreprise de promenade en bateau sur les lacs de barrage.
La Nationale 2 nous a beaucoup donné. Il faut vraiment se servir de toute la beauté de la nature qui nous environne. Il faut attirer les touristes. La N2, c'est vraiment une chance, une publicité pour que les gens s'arrêtent plus souvent à Sertão. Car ici, dans un rayon de 20 à 30 km, il y a beaucoup à explorer.
Des eaux cristallines, des forêts qui s'y reflètent et des villages moyenâgeux. La N2 est un excellent produit de marketing touristique. Reste à trouver du monde pour accueillir les touristes. Antonio Castellan.
Notre problème, c'est le manque de main-d'œuvre. Il n'y a personne pour travailler. Pas facile de trouver des gens qualifiés dans le tourisme. Je n'arrive pas à trouver des gens pour chacun des bateaux qui naviguent sur le lac.
Certains, c'est aussi la capitale de mets gastronomiques traditionnels de plus en plus recherchés, le bouchot et le maragnon, de la panse de brebis ou de porc, farci de riz, d'herbes, de viande et d'épices. L'intérêt grandit avec le développement touristique, au point que Thelma Santos a dû ouvrir un atelier de confection de panse farcie pour faire face à la demande croissante. Thelma Santos.
On vend du maragnon hors de Sertão depuis longtemps, mais la Nationale 2 est en train de donner encore plus d'importance à nos produits. C'est un vrai coup de pouce, d'autant plus que notre magasin est situé en plein sur la Nationale 2. Ça draine du monde.
À peu près 70% de la population portugaise vit sur le littoral. L'intérieur, jamais bien loin de la côte, est souvent oublié des cartes. La N2 pourrait bien changer les choses. Elsa Marçal, qui dirige l'hôtel couvent de Sertão, en est convaincue.
Je trouve super que les Portugais découvrent leur Nationale 2. Cette route est superbe. Elle est d'une grande richesse et d'une grande variété du nord au sud. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la route 66 des Américains, nettement plus identique d'un bout à l'autre. Les gens qui viennent ici ne savent pas que nous avons 30 plages fluviales, que nous avons 80% de l'eau des barrages de la région. Nous sommes à côté des villages de schiste, de la montagne. Les routes sont bonnes, la gastronomie extra, sans oublier que la population est très sympathique.
C'est finalement l'un des rares aspects positifs de l'épidémie de Covid qui aura permis de mettre la Nationale 2 sur la carte.
Свой следующий видеоблог, наверное, запишу через месяц, не раньше.
Шерлок, тот за шей, Вова даст лещей по шее. Популист и твой ошейник, националист на шее. Мыть от крови не придется, не закрывай войны солнце. Че не имется, что нет дворца, в этом все новости. Фарту масти, попасти, мусорам.
Des nouvelles d'Alexei Navalny, l'opposant russe poursuit sa convalescence dans un hôpital de Berlin et son état de santé s'améliore. Il a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait pu respirer seul toute une journée. Avant son empoisonnement, Alexei Navalny s'était beaucoup investi dans la campagne pour les élections régionales de dimanche dernier en Russie en poussant la tactique du vote intelligent. Comme ses alliés ne sont généralement pas autorisés à se présenter, il s'agit de voter pour le candidat le mieux placé face à celui du pouvoir. Une tactique désormais promue par son fidèle lieutenant, Leonid Volkov. Son portrait avec Anastasia Becchio.
À presque 40 ans, il anime le réseau des bureaux régionaux du FBK, le Fonds de lutte contre la corruption. Ce natif de l'Oural a fait la connaissance d'Alexei Navalny il y a une dizaine d'années, alors qu'il était député de la Douma d'Ekaterinbourg. Son ami, l'analyste politique Fyodor Krasheninnikov, s'en souvient.
C'était un député municipal qui ne cachait pas ses vues d'opposant libéral. Il a organisé de nombreuses manifestations à Ekaterinbourg et des représentants de l'opposition à Moscou ont alors cherché à entrer en contact avec lui. C'est à cette même époque qu'il a fait la connaissance d'Alexei Navalny, qui n'était alors que blogueur et qui ne faisait pas encore de politique. Léonide l'a ensuite fait venir à Ekaterinbourg et je crois que c'était l'un des premiers déplacements d'Alexei Navalny en tant qu'orateur politique.
Dans les années qui suivent, Léonide Volkov devient le bras droit d'Alexei Navalny, faisant sa campagne pour l'élection à la mairie de Moscou ou celle avortée à la présidentielle de 2018. Il s'intéresse au rôle des nouvelles technologies dans les problématiques liées à la démocratisation. Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace.
Il est mathématicien de formation, fils de scientifique universitaire à Sverdlovsk, l'ancien nom de Ekaterinbourg. Mais donc, il vient vraiment de ce milieu de mathématicien et il a développé, donc justement, il a fait une thèse en mathématiques et il s'est ensuite spécialisé, il a travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans, dans une entreprise qui était spécialisée donc en informatique et dans les nouvelles technologies. Et il est en effet convaincu que ça peut être un des leviers, ou en tout cas que c'est un paramètre très important à prendre en compte désormais pour toutes les questions qui sont liées à la démocratie et la démocratisation.
L'idée du vote intelligent, même si elle ne révolutionne pas le paysage politique russe, inquiète au moins certains pouvoirs régionaux. Ces derniers jours, des bureaux du FBK ont été attaqués en province. D'une manière générale, les collaborateurs d'Alexei Navalny sont soumis à une pression judiciaire et Léonid Volkov n'échappe pas à la règle. Clémentine Fauconnier.
Pendant la campagne à la présidentielle, qui a été très courte, hein, puisque finalement Navalny n'a pas pu se présenter, il a été arrêté 5 fois et en tout, il a passé 95 jours en détention quand même. Donc il fait aussi, même s'il est beaucoup moins visible et beaucoup moins connu, il passe aussi un temps significatif dans les prisons ou en tout cas dans ce qu'on appelle la détention administrative en Russie, qui est une espèce de pré-prison.
Avec les législatives prévues l'an prochain, la pression sur l'opposition ira en augmentant, pronostique Fyodor Krasheninnikov. D'ailleurs, explique-t-il, Léonid Volkov vit depuis un certain temps déjà à Berlin pour des raisons de sécurité.
Il faut bien comprendre que s'il revient en Russie, cela équivaut à un aller direct en prison, surtout après ce qui s'est passé avec Navalny. C'est un homme qui a vraiment sacrifié une très bonne carrière dans les affaires. Il aurait pu vivre très confortablement en Russie ou en Europe, mais il a renoncé à tout ça parce qu'il a décidé de faire de la politique. Pour lui, c'est plus important de se battre pour que les valeurs qu'il défend puissent revenir en Russie. Et c'est regrettable que sous Poutine, de telles personnes se retrouvent menacées par des affaires judiciaires et qu'elles soient contraintes de mener leur activité dans des conditions de quasi-guérilla.
Cette semaine, dans un entretien au site Medusa, Léonid Volkov a expliqué qu'il était en contact permanent avec les bureaux régionaux du Fonds de lutte contre la corruption. Seule exception, le travail pour les élections a été suspendu pendant 2 jours après l'empoisonnement d'Alexei Navalny.
Et puis à l'occasion de ces élections en Russie, le camp d'Alexei Navalny a enregistré des victoires électorales symboliques à Tomsk, où il aurait été intoxiqué. Ses deux principaux candidats sont arrivés en tête dans leur circonscription, devenant les tout premiers élus du mouvement d'Alexei Navalny. Dans l'ensemble, le scrutin a été dominé par le parti du Kremlin Russie Unie sur fond d'accusations d'irrégularité. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.